Plus que jamais, nous voulons tout et nous le voulons maintenant. Ça, c'est un peu le mot d'ordre de la culture, de la civilisation d'aujourd'hui. En quelques clics, nous avons accès sur Internet à une quantité stupéfiante d'informations, d'offres commerciales et même d'expériences en tout genre. Alors, il faut reconnaître qu'il y a de réels avantages à cette incroyable abondance de ressources, en particulier lorsque ce sont de bonnes ressources qui sont diffusées à grande échelle, auxquelles l'accès est démocratisé. Beaucoup ont accès à la connaissance où c'était plus difficile avant. Mais en même temps, chacun peut constater les effets pervers de cette révolution. Parce que le tout maintenant, c'est souvent une illusion qui mène en fait à de vraies frustrations, même à des souffrances. Ces relations qu'on croit tisser aux quatre coins du monde, souvent, elles sont plus virtuelles que réelles. L'accès constant à une quantité incroyable de divertissement, ça ne nous rend pas plus heureux, mais souvent plus insatisfaits que jamais par rapport à notre vie qui paraît bien banale à côté de toutes ces histoires extraordinaires auxquelles nous avons accès sans cesse. L'un des domaines dans lesquels la culture du tout et tout maintenant fait le plus de ravages, c'est celui de la sexualité. Avec l'explosion à grande échelle par Internet de la pornographie, avec cette idée qui véhicule le mensonge d'un sexe, d'une sexualité sans conséquences, sans relation réelle, et qui est maintenue par l'addiction de millions de personnes. Et dans ce contexte, le texte de ce soir est particulièrement frappant parce qu'il nous ramène au réel. Là où nous rêvons d'abolir les limites, eh bien, il nous rappelle que les limites, en fait, elles sont là, elles sont nécessaires. Et même si on ne les veut pas, de toute façon, elles s'imposent. Là où nous voulons maximiser le temps, eh bien, ce texte nous rappelle qu'en fait, le temps est compté, il est limité. Et là où nous voulons vivre à fond, ce texte, et d'un point de vue général, le livre de l'Ecclésiaste nous invite à vivre avec sagesse. Alors on va se pencher sur ce texte en deux temps. D'abord, on va voir que la vie compte et elle est comptée, ce sera notre premier point. Et puis ensuite, que la vie est une invitation à connaître l'éternel. Premièrement donc, la vie compte et elle est comptée. Le message central qui ressort des versets 1 à 8, donc tout c'est « il y a un temps pour tout », c'est que la vie de l'homme, elle est à la fois réelle et passagère. Réelle et passagère. Une autre manière de le dire, donc, ça serait de dire que la vie de l'homme compte, mais qu'elle est comptée. La vie compte d'abord. C'est pas ce qu'on voit en premier lieu en lisant ce texte, mais je crois que cette réalité est bien là. La vie compte. La vie humaine est faite d'événements dont l'auteur nous dresse toute une liste au verset 1 à 8, des événements concrets et des événements qui, à notre échelle, à l'échelle humaine, ont de l'importance. Ont du poids. Alors c'est vrai, vous me direz, pourtant le livre de l'Ecclésiaste a commencé par ce refrain que Paul nous a commenté la semaine dernière, tout est futilité, tout n'est que vapeur dans un sens. Et on a vu que la vie de l'homme, effectivement, en elle-même, si on regarde ce qui fait la vie de l'homme en elle-même au quotidien, elle est futile, elle est cruellement insatisfaisante. Elle est passagère, changeante, et on va le revoir ce soir. Mais l'Ecclésiaste, dans son livre, fait un va-et-vient permanent entre cette lucidité qui est la sienne sur le caractère passager et éphémère, et futile même, de la vie humaine considérée à elle seule, et en même temps, l'affirmation qui revient souvent dans ce livre, que l'homme est responsable devant Dieu et que ses actes ont des conséquences. Et c'est bien de nous rappeler cela en cette époque du tout virtuel. Je ne sais pas si certains sont comme moi, mais j'aime bien aller sur Google Maps, Street View, etc. pour voir à quoi ressemble telle ville dans tel pays. Alors, je suis un peu geek comme ça parfois et je pourrais y passer des heures. Par exemple, tiens, je vais aller voir à quoi ressemble un peu Tokyo. Je ne suis jamais allé. Et donc, on va sur Google Maps et puis on peut suivre une route et même voir les photos et voir des paysages ou plutôt pour Tokyo des bâtiments. Et avoir l'impression, même l'espace d'un instant, qu'on y est. Parce que c'est vraiment, on voit les panneaux d'indication, on voit les gens qui traversent la rue, on voit les magasins. Ah, on s'y croirait presque. Mais c'est du virtuel. Il faut revenir à la réalité. La réalité, c'est que si je veux aller à Tokyo, d'abord, il va falloir payer un billet d'avion qui va être cher. Il va falloir rester des heures dans l'avion. Je ne sais pas combien d'heures, certains le savent sans doute, mais longtemps. Et puis, je vais arriver dans un endroit où je parlerai pas la langue, où je ne connaîtrai personne, où tout coûtera de l'argent. En plus, je crois que la vie est assez chère là-bas. Donc, nous voulons croire que nous pouvons échapper au réel. Puis, voilà, on peut, si vous me permettez le langage, taper un petit délire en allant comme ça sur Google Maps. Mais en fait, le fait est que nous avons une vie concrète, tous. Ce n'est pas à Tokyo que j'habite, mais à Paris. Ce n'est pas le japonais que je parle au quotidien. Enfin, je ne le parle d'ailleurs jamais. Ce n'est pas le japonais que je parle, mais le français. Ce ne sont pas ces inconnus dans les rues de Tokyo qui sont les personnes avec qui j'interagis, que j'ai l'occasion de connaître, d'aimer, que je peux blesser, qui ont un impact sur moi. Mais ce sont bien des gens ici. Dans le virtuel, tout est facile et rien n'a de conséquences. Je peux écrire un tweet dans la masse du web, dans l'anonymat du web, pour critiquer par exemple une personnalité célèbre. Ça aura sans doute pas de conséquences, pas vraiment. Mais si je critique publiquement quelqu'un que je connais, réellement, ben ça aura des conséquences. Je vais blesser la personne ou la mettre en colère. Peut-être me placer aussi dans une situation difficile. Outre le fait que c'est pas une bonne chose de critiquer les gens publiquement. Dans la vie réelle, nos actes et nos paroles comptent. Et c'est l'une des choses que ce texte nous rappelle. Discrètement, c'est vrai, mais il me semble qu'il le rappelle quand même par cette énumération d'événements de la vie. La vie humaine n'est pas faite de rêveries et d'idées virtuelles, mais elle est faite d'actes concrets et de conséquences réelles. Donc la vie humaine compte, mais en même temps, elle est comptée. Et c'est l'autre idée qui ressort, et là pour le coup très clairement, de ces versets 1 à 8. Le verset 2 nous dit qu'il y a un temps pour mettre au monde et un temps pour mourir. Les étapes de la vie. Ma fille Livia, qui a un peu plus de 2 ans, est née quelques heures après la mort du grand-père de ma femme. Juste quelques heures d'écart. Et quand ça a eu lieu, ce verset particulièrement nous est revenu beaucoup à l'esprit. La famille du côté de ma femme a connu à quelques heures d'intervalle la réalité d'un deuil, d'une vie qui passe et puis d'une vie qui commence. Et de même, poursuit l'auteur, toute plante qui a été arrachée meurt et doit un jour, toute plante qui a été plantée meurt et doit être arrachée. Et on va planter une nouvelle plante à la place et puis il faudra l'arracher à nouveau. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir, poursuit l'auteur au verset 3. Alors certains commentateurs pensent que l'auteur ici parle du bétail dont il faut prendre soin pour un temps mais qu'il faut ensuite abattre. Ça vient juste après les plantes et donc certains pensent que c'est cela qu'il évoque. D'autres pensent que c'est bien de l'homme qu'il parle et on peut supposer qu'il pense à la guerre. Voilà un sujet qui n'est pas facile, sujet de débat entre chrétiens. Mais la plupart des chrétiens, pas tous, estiment qu'il peut y avoir un temps pour tuer, au moins pour protéger des victimes, comme par exemple lors des opérations contre les terroristes au mois de janvier, qui ont permis de libérer des otages menacés de mort. L'auteur poursuit, il y a un temps pour démolir, que ce soit un bâtiment, que ce soit donc littéralement un bâtiment qu'on démolit, ou de manière imagée, mettre fin à un projet, accepter la fin de quelque chose, peut-être quelque chose qui nous a demandé beaucoup de temps et d'énergie. Il y a un temps pour démolir, mais aussi un temps pour bâtir, un temps pour rassembler des outils, des forces et des idées, pour mettre quelque chose de nouveau en place. Mais ce quelque chose de nouveau, ben un jour, il sera obsolète. Il faudra à nouveau le détruire, et ainsi de suite. Il y a un temps pour pleurer et rire, pour se lamenter et pour danser, verset 4. Et ça, je pense qu'on peut tous s'identifier à cela. On va parfois à des mariages, parfois à des enterrements. On passe par des temps de grande joie dans nos vies, et puis des temps difficiles, des temps de souffrance, des temps de découragement. Parfois, c'est de manière assez rapprochée. Ces deux temps. Verset 5, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un petit peu mystérieux à première vue. À l'époque, on bouchait avec des pierres les sources d'eau des ennemis lorsqu'il y avait une guerre, en y jetant des pierres, et certains commentateurs pensent que c'est peut-être à ça que l'auteur pense. Par contre, pour défricher un champ, à l'époque, c'est une réalité vraiment concernée à peu près tout le monde, il fallait commencer par ramasser des pierres. Peut-être que c'est à cela que l'auteur pense. En tout cas, on voit bien l'idée. Il y a un temps pour, encore une fois, pour enlever et pour mettre des choses. Un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte, verset 5. Alors c'est vrai pour des relations amoureuses qui ne durent pas. Mais l'auteur pense sans doute plus largement aux amis dont le temps et l'espace nous éloignent. Un temps pour étreindre et un temps pour quitter l'étreinte. Aux enfants qui quittent le foyer un jour. Un temps pour chercher et un temps pour perdre, verset 6. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Alors ça, on le voit dans la vie quotidienne, hein, très banalement. Moi, je passe beaucoup de temps à chercher, à perdre et à chercher, je dois avouer. Je ne suis peut-être pas le seul. Mais plus sérieusement et plus largement, on voit que l'auteur insiste là sur le caractère éphémère, encore une fois, de nos vies et de nos circonstances. Et d'ailleurs, il suffit de regarder chez soi combien de choses parmi celles que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous aurez encore dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et si il est certain que vous n'aurez pas la plupart de ces choses, par exemple dans 20 ans, peut-être qu'il y en a qui conservent toujours tout, hein, mais ça devient difficile au bout d'un moment. S'il est certain que vous n'aurez plus ces choses, comment se fait-il qu'elles sont si importantes maintenant ? Le genre de question qu'on peut se poser. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Combien de problèmes on pourrait s'épargner si on savait mieux à quel moment se taire et à quel moment parler ? Un temps pour aimer et un temps pour détester, un temps de guerre et un temps de paix, verset 8. Là encore, ce n'est pas très facile. C'est vrai, Jésus invitera ses disciples à aimer même leurs ennemis. Ici, l'auteur écrit des siècles avant Jésus. Et je crois qu'il fait ici le simple constat des relations changeantes au cours de l'histoire et en particulier à l'échelle nationale, mondiale. Les Allemands étaient ennemis des Français pendant une bonne partie du XXe siècle. Aujourd'hui, les deux peuples sont relativement amis. En revanche, si on peut penser à la Russie et à l'Ukraine, qui étaient deux peuples extrêmement liés en partie par la langue et par l'histoire, qui avaient des relations proches, en tout cas en termes diplomatiques et en tout cas sur le plan politique, une situation où les deux pays sont aujourd'hui ennemis. Qu'en sera-t-il dans 20 ans ? Qu'en sera-t-il dans 50 ans ? Dans un siècle ? Et dans tout cela, l'idée sous-jacente, elle est toujours la même. Rien ne dure, les événements se succèdent et sont changeants. Et ce qui est vrai aujourd'hui, à l'échelle humaine, ne sera pas forcément vrai demain. Donc cette première partie du texte, elle frappe par son réalisme. La vie est faite d'événements qui sont passagers, mais qui en même temps ont des conséquences. On ne peut pas tout faire en même temps donc. Et ça, c'est difficile à entendre dans le monde d'aujourd'hui. On ne peut pas tout faire en même temps. Et parce que notre vie a ses limites, ça implique que choisir quelque chose, c'est toujours ne pas choisir autre chose. Ça, on n'aime pas entendre ça. Choisir quelque chose, c'est toujours, dans un sens, ne pas choisir autre chose. Et on doit se laisser interpeller par ce rappel à la réalité. Parce qu'en essayant de vivre tout à la fois, et je crois qu'on y est particulièrement poussé aujourd'hui, en essayant de vivre tout à la fois, bah souvent on passe justement à côté de la vie réelle. Est-ce que nous sommes prêts à accepter que la vie est faite de séquences et de choix ? Par exemple, est-ce qu'il se pourrait qu'une heure passée avec une personne qu'on croise régulièrement à la RDS, c'est-à-dire tiens, on va prendre une heure pour prendre du temps ensemble, pour apprendre à mieux se connaître, peut-être pour prier ensemble, peut-être que ça aura plus d'impact que des dizaines d'heures sur Facebook à échanger avec des gens qu'en fait on voit finalement presque jamais. Être plus présent dans son église, plus disponible aussi autour de soi, notamment pour le témoignage, ça voudra peut-être dire certains choix à contre-courant sur le plan professionnel ou financier. Ceux qui envisagent de se marier, sont-ils prêts à accepter que dire oui à une jeune femme ou à un jeune homme, c'est dire non à tous les autres ? Et c'est accepter qu'on ne va même plus se poser la question ? Ceux qui veulent des enfants, acceptent-ils que les changements drastiques que ça impliquera pour eux au quotidien ? Est-ce que nous avons peur des choix parce que nous aimerions une vie sans conséquences ? La vie compte, elle est comptée. Et parce qu'elle est comptée, les choix nous engagent, les choix nous changent. Mais dans cette réalité changeante et souvent passagère, eh bien nous sommes invités à tourner les regards vers celui qui ne change pas. Ce sera notre deuxième point. La vie est une invitation à connaître l'Éternel. Dans son ouvrage « L'existentialisme est un humanisme », Jean-Paul Sartre explique ce qui fonde sa démarche en tant que philosophe humaniste, mais athée. Et voici ce qu'il écrit. Je me souviens que ce texte était au programme de Terminal. Ça remonte. « Si j'ai supprimé Dieu le Père, il faut bien quelqu'un pour inventer les valeurs. Cela ne signifie pas autre chose que ceci. La vie n'a pas de sens a priori. Avant que vous ne viviez, la vie, elle, n'est rien. Mais c'est à vous de lui donner un sens. Et la valeur n'est pas autre chose que ce sens que vous choisissez. Pour Jean-Paul Sartre, puisque Dieu, selon lui, n'existe pas, il faut inventer les valeurs. C'est texto ce qu'il dit. Il faut que l'homme décide de lui-même ce qui est bon ou mauvais. Alors ça peut paraître lucide à première vue, ça peut paraître attrayant, mais il faut bien prendre conscience des enjeux, il faut bien prendre conscience de ce que ça veut dire. Parce que le fait est, et on le voit bien, que les hommes ne partagent pas les valeurs. Alors certaines, et encore, mais les hommes ne partagent pas tous les mêmes valeurs, et de loin pas. Donc dire que c'est à l'homme d'inventer ses valeurs, les valeurs, en fait ça veut dire que c'est à chacun d'inventer ses valeurs. Et donc ça veut dire qu'on supprime toute norme morale. C'est ce que Sartre dit. Ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il est, vraiment intellectuellement honnête avec ça. J'ai pas mal de penseurs athées, on essaye quand même de trouver une morale transcendante d'une façon ou d'une autre. Sartre, il dit non, c'est pas possible. Il va falloir l'inventer, cette morale, parce qu'elle n'est pas là, à la base. Donc, vous pensez que tuer quelqu'un qui vous agace dans le métro, c'est immoral ? Alors, ça tombe bien, la plupart des gens pensent ça, mais au nom de quelle norme allez-vous pouvoir contester cela ? Allez-vous pouvoir contester quelqu'un qui voudrait dire « moi, j'ai envie de tuer la personne qui m'agace dans le métro ?» Puisque c'est à chacun de décider ce qui est bon ou ce qui est mauvais, et qu'il n'y a rien qui dépasse l'homme. Qu'est-ce qui vous permet de dire « c'est pas bien » ? C'est peut-être pas totalement un hasard si Sartre a soutenu des régimes totalitaires et meurtriers au nom d'une cause qui lui semblait bonne. L'auteur de l'Ecclésiaste, lui, il fait à peu près le chemin inverse. C'est-à-dire qu'il part du constat que rien de ce que l'homme fait et vit ne dure. Le fait que tout est éphémère dans la vie de l'homme. Tout est passager. L'homme a beau essayer de donner du sens à sa vie. Sartre dit, il faut inventer les valeurs. L'auteur de l'Ecclésiaste dit, on essaye. Mais on fait face à des limites et on fait face au temps qui nous échappe. Contrairement à Sartre, l'Ecclésiaste croit que le réel ne se limite pas à la vie humaine et que l'homme a reçu la vie du Créateur, versets 11 à 13. Tout ce qu'il a fait, donc Dieu, est beau en son temps. Aussi, il a mis la durée dans leur cœur, sans que l'être humain puisse trouver l'œuvre que Dieu a faite depuis le commencement jusqu'à la fin. Un peu plus loin, pour chacun, manger, boire et voir le bonheur dans son travail est un don de Dieu. Dans un sens, l'Ecclésiaste est plus pessimiste entre guillemets que Sartre, parce qu'il pense que l'homme n'arrivera pas à donner un sens à sa vie. L'homme ne peut pas saisir l'œuvre éternelle de Dieu, verset 11. L'homme est limité, il n'a pas prise sur l'éternité, il n'a pas prise sur le sens de la vie. Il essaye, mais il fait face au constat que rien n'a, tout est éphémère, tout est passager. Mais l'Ecclésiaste est infiniment plus optimiste que Sartre, parce qu'il croit que l'homme n'est pas seul, mais qu'il y a un Créateur qui, lui, agit toujours dans l'éternité. Verset 14, « Je sais que tout ce que Dieu fait est pour toujours. » Et vous voyez le contraste. Pour l'homme, il y a un temps pour ceci, un temps pour cela. Mais pour Dieu, tout ce qu'il fait est pour toujours. Il croit aussi que ce Créateur veut le bonheur de l'homme et lui accorde la vie comme un don. Quelle est l'espérance qui peut venir d'une telle affirmation ? Alors, il faut reconnaître que l'espérance de l'Ecclésiaste, elle est encore peu précise. En fait, c'est presque comme s'il laisse le lecteur tirer ses propres conclusions. Il fait le constat de l'insatisfaction du caractère éphémère de la vie humaine, mais il souligne que Dieu, lui, agit dans l'éternité et qu'il donne la vie comme un don. Et il donne l'activité aux humains, dit-il. Or, si Dieu fait tout dans l'éternité, est-ce qu'il ne faut pas conclure que si Dieu invite l'homme à une relation, eh bien cette relation aussi, elle sera éternelle. Et on apprend dans ce texte que Dieu, justement, n'est pas indifférent à l'homme, vis-à-vis de l'homme. Plus encore, Dieu parle au cœur de l'homme. Verset 11, il a mis la durée dans leur cœur, ou autre traduction, il a mis l'éternité dans leur cœur. Pourquoi est-ce que Dieu ferait cela s'il n'avait pas des projets pour nous qui s'inscrivent dans l'éternité ? Au verset 14, on apprend que Dieu fait en sorte qu'on le craigne. Sophie nous a déjà parlé de cela. Dieu veut que l'homme regarde à lui et se réfère à lui. discrètement, l'Ecclésiaste semble bien nous indiquer que nous sommes faits pour connaître Dieu et pour fonder notre existence en lui. Et contrairement à Sartre, il estime que nous n'avons pas à essayer d'inventer un sens à notre vie, mais au contraire, nous devrions la recevoir comme un don, même si elle reste mystérieuse pour nous. C'est ça aussi la crainte du Seigneur, reconnaître qu'il y a des choses qui nous échappent, il y a des choses qui sont du domaine de Dieu et sur lesquelles nous n'avons pas prise. C'est bien de l'entendre. Parfois, en tant que chrétien évangélique, on a des réponses à tout, tout est dans des cases bien claires pour tout le monde. Ici, on a le rappel qu'il y a une partie de la vie qui nous échappe. Il y a une partie de qui Dieu est et de ce qu'il fait qui nous échappe. Mais on peut lui faire confiance et c'est ce qu'on va voir également. Pour l'Ecclésiaste, à quoi ça va ressembler recevoir la vie comme un don ? Étonnamment, c'est assez simple, verset 13, « Manger, boire et voir le bonheur dans tout son travail. » C'est sympa. Pour un Français, c'est l'idéal. En tout cas, la partie manger et boire. La Bible, bien sûr, a d'autres choses à dire sur la vocation humaine. Donc ici, ce n'est pas exhaustif sur la vocation humaine, ce que dit l'auteur. Mais il veut insister sur le fait que la vie est donnée et que nous ne trouverons pas le sens de la vie dans nos réalisations ou dans nos prétendues valeurs, mais dans l'accueil des dons de Dieu. Des dons tout simples, à commencer par la nourriture, la boisson, le travail, la joie. Nous n'avons pas à essayer de vivre sans vie à la fois ou d'avoir tout maintenant, parce que nous avons un Créateur qui, lui, est éternel. Alors si on veut de l'éternel, si on veut de l'absolu, et nous avons ce désir en nous, c'est ce que nous dit l'auteur, eh bien c'est en lui qu'il va falloir le chercher, et pas en nous-mêmes. Et la Bible nous révèle progressivement ce que Dieu a accompli pour nous faire goûter à nouveau à une relation d'éternité avec lui, avec notre Créateur, dont nous nous étions détournés. On l'a rappelé, Sophie l'a rappelé, Paul l'a rappelé, on a pris la scène pour le rappeler. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour qu'il vienne dans notre condition humaine, en étant prêt à vivre jusqu'à l'extrême la futilité de la vie, en allant jusqu'à la mort terrible de la croix. Jésus a pris de plein fouet le caractère éphémère, le caractère de souffrance et de futilité de la vie. Mais en remportant la victoire sur la mort au troisième jour, il a fait triompher la vie et l'éternité de Dieu sur la futilité et l'éphémère. Et la Bible affirme que ceux et celles qui saisissent cette vie nouvelle que Jésus offre, eh bien, ils seront entraînés eux aussi au-delà de la mort vers une vie nouvelle et impérissable. Voici ce que l'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, versets 20 et 21. « La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la futilité. » Un mot qui doit nous rappeler l'Ecclésiaste. « Avec une espérance. » Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et à la fin du même chapitre, Paul affirme que ni mort, ni vie, ni présent, ni avenir ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors que notre civilisation nous invite à abolir les limites, la Bible nous appelle à reconnaître au contraire et à accueillir les limites que Dieu a placées sur notre vie, et à faire confiance à un Dieu qui est, lui, sans limite. Plutôt que d'essayer de vivre tout en même temps, devrions peut-être chercher à vivre dans la paix et l'espérance, la vie réelle que Dieu nous a donnée. Il nous a placés chacun dans un contexte, avec des proches, des amis, un travail, des occasions ou des études qui nous préparent à un travail, des occasions de servir, de se réjouir, de réjouir ceux qui nous entourent. Il y a bien sûr des changements dans la vie, et c'est bien ce qu'on a vu au verset 1 à 8. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut jamais changer. Mais Dieu nous a placés dans un contexte. Et nous devrions peut-être prendre le temps de redécouvrir la vie qu'il nous a donnée, plutôt que d'essayer de vivre sans vie à la fois. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs, dit un psaume bien connu. Et si le temps était venu pour nous d'arrêter un peu de courir, je me parle aussi à moi-même, d'arrêter de vouloir nous inventer mille vies virtuelles pour être réellement présents et disponibles pour vivre la vraie vie que Dieu nous a donnée. Je vous invite à la prière. Notre Père, nous te remercions parce que en Jésus-Christ, tu nous as sauvés de la futilité. La futilité à laquelle nous faisons encore face, à laquelle nous devons encore, avec laquelle nous devons encore composer au quotidien. Mais en même temps, Père, toi qui es notre Créateur, tu es éternel et tu nous as créés pour l'éternité. Alors Père, nous voulons nous attacher à nouveau à cette promesse d'une vie éternelle, non pas une échappatoire, un désir de fuite, mais au contraire, Seigneur, nous voulons voir dès maintenant, dans la vie présente, des reflets, des avant-goûts de cette éternité que tu veux nous faire vivre, non pas parce qu'il y aurait en nous quelque chose qui nous permettrait de vivre cette éternité, mais parce que toi, tu as voulu nous attirer dans cette relation éternelle avec toi. Seigneur, je voudrais te demander de nous aider à avoir la sagesse de faire les bons choix, d'accepter que nous ne pouvons pas tout vivre en même temps et tout choisir en même temps, d'accepter les conséquences de nos actes, y compris lorsque nous avons mal agi, d'avoir l'humilité, Seigneur, de revenir à toi et de dire, Seigneur, je veux repartir à zéro, ou pour telle ou telle chose que j'ai faite, Seigneur, je te demande pardon et je veux maintenant faire ce qui te plaît. Seigneur, nous te remercions parce qu'il n'est jamais trop tard avec toi de revenir vers toi et de recevoir ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.